Radio Liberté 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire, 89.
En compagnie ce soir de Michel Bouquet. Bonsoir, monsieur
Bonsoir.
Bouquet.
Et bonsoir, monsieur Bouquet.
Et en compagnie de Léo Ferré.
Et en compagnie de Léo.
À 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine et nos soirées sans cinéma. Et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en. Les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi. Je conserve le piano.
Vie d'artiste, plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche.
Michel Bouquet.
Oui, c'est bien d'avoir commencé par cette chanson qu'il dit, parce que ça nous fait entrer en contact avec lui dans ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son âme. C'est un des êtres qui m'a le plus frappé par sa sensibilité, par cette authenticité, ce goût de l'honnêteté, d'être ce qu'il était, et respecter ce qu'il était, et de porter ce qu'il était au maximum de ce qu'un être humain peut faire de lui-même, à lui-même. C'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. C'est cette réussite extraordinaire d'avoir gardé l'humain en lui à ce point. Et toute la vie, on s'est rencontrés quelques fois, comme ça, au détour des tournées, des choses comme ça. On s'est rencontrés quelques fois, mais jamais sans aller très loin, jamais sans pousser le bouchon trop loin. Non, tout simplement, tout simplement. Et je crois qu'il m'aimait bien, mais ça restait de camarade à camarade. Et c'était comme un exemple. Et en tout cas, de le rencontrer, c'était quelque chose de très tonifiant parce qu'on se disait, il est sur la bonne route, il est sur la route, il est comme on doit être. Et si on avait tendance à l'oublier, le fait de le rencontrer, de le voir, d'être avec lui une heure, deux heures, trois heures, ça suffisait pour se dire, il faut rester bien dans la ligne, il faut bien suivre la ligne. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré souvent. Que je n'ai pas rencontré souvent, même j'ai rencontré des êtres tout à fait étonnants, tout à fait extraordinaires, ici même dans cette maison, alors n'en parlons pas, j'y ai passé 25 ans, au moment où la radio était vraiment une chose tout à fait importante pour tout le monde, puisqu'il n'y avait pas la télévision, et qu'il y avait les plus grands auteurs issus de la Résistance qui étaient là, et qui étaient là à longueur de journée, que ce soit Sandrard, que ce soit Malraux, que ce soit Supervielle, que ce soit enfin tous Michaud, tous.
Ça a changé, hein.
Ça a changé. Oui. Et à ce moment-là, je veux dire, toute cette époque-là est restée. Enfin, mais lui était une sorte de comment dirais-je, le point de la boussole qu'il ne faut jamais quitter. Pour ne pas tomber soit dans l'excès d'intérêt pour soi-même, soit trop d'excès pour le monde, de rester dans la ligne qui reste humaine, profonde, sensible.
Et ça, dès la première rencontre, vous dites, dès que vous l'avez rencontré, vous avez senti qu'il était tout entier dans sa sincérité.
Dans sa sincérité, oui, oui. La première fois que je l'ai vu, et il ne m'a pas vu quand je l'ai vu. J'étais dans, au théâtre Grammont pour dire quelques poèmes comme ça. Prenez garde à la poésie. Voilà, c'était cette émission-là de Jean Chouquet qui se donnait à ce moment-là en direct au théâtre Grammont tous les samedis après-midi. Et Léo était là parmi d'autres chanteurs. Il y avait Aznavour, il y avait beaucoup de gens remarquables qui passaient dans cette émission. Et lui qui chantait Joli Môme, ça je m'en rappellerai toujours, qui chantait Joli Môme comme ça. Et je me disais, mais quelle merveille cette chanson, quelle merveille. Et il l'a chantée en annonant presque, en annonant. Il n'avait pas, pour ainsi dire, pas de voix. Mais il y avait une présence, il avait son costume vert, ce fameux costume vert à carreaux, là, à grands carreaux.
C'était le seul qu'il avait à l'époque.
Oui, oui, le seul. Et alors, et tous les 8 jours, donc, je participais à cette émission et de temps en temps, il venait, il chantait une autre chanson. Et à chaque fois, je me disais, cet homme est tout à fait saisissant, tout à fait profondément vrai, profondément juste.
T'es toute nue, c'est ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits saint sont du jour, à la coque, à l'amour, joli mot. Ta barrière de foufou fausse l'affaire, mais c'est tout joli mot. Ta violette et le violon confiolent et c'est bon joli mot. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, au joli mot. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli mot. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli mot. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime, faut que ça pleure, joli mot. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli mot. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli mot. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli mot. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retourner, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, et à la rue, et ma boule, joli môme.
Monsieur Bouquet, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Léo Ferré?
Je l'ai rencontré vers les années 50. Vers les années 50, je ne sais pas exactement, parce que les dates, pour moi, c'est quelque chose que j'oublie aussi vite que j'ai vécu. Mais il me semble que c'est vers les années 50, Jean Chouquet, qui était metteur en ondes à la radio, à ce moment-là, la radio avait la place que la télévision a maintenant. Il n'y avait que la radio. Et il faisait une émission en direct au Théâtre Gramont, à Paris. Il faisait une émission en direct et cette émission comportait toute une partie de variété, toute une partie de chansons, de choses, et mêlées à des poèmes dits par certains acteurs et qui se mêlaient à des manifestations devant un public. De confrontation, en quelque sorte, de confrontation entre les poètes chanteurs, n'est-ce pas, et les poètes qui, eux, ne chantaient pas et avaient besoin d'un interprète pour... Alors ça faisait un mélange très, très, très agréable de confrontation entre Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, dit par certains acteurs, n'est-ce pas, qui étaient choisis pour les dire, et alors les chansons, et alors Ferré était souvent là présent pour chanter, je veux dire, ses propres chansons à lui. C'est là que j'ai entendu pour la première fois Joli Môme ou des chansons comme ça qui sont des merveilles, des pures merveilles. Et aussi des chansons qu'il interprétait sur des poèmes de Verlaine ou sur des poèmes de Rimbaud, sur des poèmes de Baudelaire. Et alors donc, ces émissions étaient tous les samedis après-midi et étaient en public, comme je l'ai dit, et on avait une très grande émotion à faire ces émissions en direct ensemble. Et eux étaient ravis de nous avoir à côté disant des poèmes et nous étions ravis d'entendre des fois ces poèmes en chansons ou les chansons originales de chacun des artistes, interprètes et compositeurs qui nous accompagnaient. C'était très agréable. Et je l'ai rencontré là, mais je ne l'ai pas, je veux dire, connu. J'appréciais énormément, je trouvais son talent magnifique, mais je n'aurais pas osé l'approcher parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui était, je veux dire, qui était trop impressionnant, si vous voulez, trop impressionnant.
Mais revenons maintenant du Moyen-Âge à nos jours, si vous voulez bien. Hein? Et devinez quel est le poète de la chanson qui a évoqué le plus vilainesquement Paris.
Le plus vilainesquement?
Oui.
C'est joli, ça. Le plus vilainesquement, oui. C'est enfantin, mon cher ami. Tout le monde a deviné qu'il s'agit de Léo Ferré. Et voici Léo Ferré, accompagné à l'accordéon par Jean Cardon. Léo Ferré!
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes accordéons, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos se déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es des Lacroix, bébère d'Anvers, ça fait des mois qui sont d'Auvers. Alors ces dames se font une raison, à se font bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copains, allons, sinon t'es bon. Ah la la une, ah la la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la der, ah la la rien, t'es un gangster à la mi-de-pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule de la Seine. Pour la romance à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont. C'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flonflon, t'as l'âme en fête, et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon.
Mais je l'ai rencontré par la suite, au fur et à mesure des années qui ont passé, et un jour, surtout à Bruxelles, où je me trouvais là tout seul, entre deux représentations, et dans un restaurant de Bruxelles, il était là avec plusieurs personnes autour de lui, dont sa femme, etc. Et je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas quitté, que nous nous rencontrions comme ça, c'est de plein pied, comme ça, c'est comme si on s'était vu dans ces années-là et qu'on avait parlé ensemble. On n'avait pas parlé, on s'était à peine entreaperçu plusieurs fois, mais c'était comme si tout à coup on pouvait parler. Tout à fait familièrement, de plein pied, total. Alors j'étais surpris de ça, très honoré, et en même temps très surpris de savoir que tout ce qui avait paru fugitif comme ça, s'était matérialisé et tout à fait, était devenu pour l'un et pour l'autre quelque chose d'important. J'ai été très surpris de ça et très touché. très, très bouleversé même par ça, parce qu'il avait une personnalité très... Enfin, pour moi, il était l'interprète. Après, je l'ai revu à l'Olympia quand il a donné ses récitals à l'Olympia. Et là, il était tout à fait impressionnant comme interprète. Moi, j'ai retenu de lui... j'ai jamais vu un interprète, sauf Piaf peut-être, un interprète avoir un tel pouvoir sur le public, aussi puissant, aussi évident. Enfin, dès qu'il était en scène et puis qu'il commençait à chanter, on était complètement emporté par le talent, bon, merveilleux, du parolier et extraordinaire qu'il était, et du musicien magnifique qu'il était, de la sincérité étonnante de ce qu'il nous donnait en quelque sorte à apprécier. Mais le talent d'interprète m'a paru encore plus extraordinaire que ce que j'avais imaginé, quoi. J'étais comblé, complètement comblé. Je lui ai dit après, j'étais complètement... cette soirée m'est restée... m'est restée vraiment importante, enfin. Je me suis dit, comment un homme peut-il arriver à ça, à cette espèce de puissance, une puissance incroyable, de sincérité. Je me suis dit, mais cet homme est la merveille de sincérité, au même titre qu'on rencontre dans certains artistes, par exemple, je veux dire, si on pense à Van Gogh, ou si on pense à Baudelaire, ou si on pense à Rimbaud, si on pense à Verlaine, à des gens comme ça, on se dit, c'est leur vie est la représentation de ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont vécu. Je veux dire qu'ils donnent cette force à la sincérité de leur... La personne représente très exactement ce qu'on en pense. Il n'y a pas ce qu'ils font et puis ce qu'ils sont. Non, les deux sont complètement liés et avec tous les risques de vie que ça comporte, je veux dire, cette sincérité énorme, profonde, puissante. Ça, j'ai été frappé par ça.
Marcel Aimé dénonçait dans un ouvrage, oui, le confort intellectuel. Il semblerait que ça ait été pendant très longtemps et toujours même l'œuvre de Léo Ferré, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes. Vous avez senti cette singularité chez cet artiste ?
Oui, j'ai senti qu'il était tout entier dans sa propre sincérité et qu'il se débattait à l'intérieur de lui dans sa propre sincérité. Ce qu'il en pensait n'était pas, je veux dire, une chose rapportée, c'était une chose vécue. Et ce besoin anarchique qui le rendait parfois très déplaisant était une chose qui n'était pas, je veux dire, qui était lui. C'était lui, c'était pas un désir de vouloir être ça, c'était lui. Et cette même sincérité le déchirait, le rendait en quelque sorte, je veux dire, victime de ses agissements. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Donc ces choses qui auraient pu nous brutaliser, nous choquer, au contraire, prenaient un sens véritablement important parce que il était lui-même la propre victime de lui-même. Il était d'une sincérité, encore une fois, absolue, quoi. C'est extrêmement rare.
Nous resterons quelques abstraits, comme les oiseaux de nuit, de préférence, comme les oiseaux du malheur. Ils ont des becs, ils ont des yeux perçants, comme les femmes, les oiseaux du malheur. Ils ont la grâce et volent adorablement. Comme les femmes, les oiseaux du malheur, ils ont des pattes et marchent dans le vent. Comme les femmes, les oiseaux du malheur, ils ont des nids avec tous nos enfants. Comme les femmes, les oiseaux du malheur, c'est avec ça que nous dormons. Et c'est pour ça que nous crevons. En essayant de leur apprendre le doute et la misère. Viens avec ton bec, avec tes yeux, viens avec ta grâce.
Après, on s'est revus au milieu de la vie, comme ça, pendant des tournées, à Bruxelles, souvent, aux Armes de Bruxelles, tout ça. Et on mangeait ensemble, on bavardait de ce qui nous arrivait, mais tout ça, gentiment. Et puis après, je l'ai revu à l'Olympia, sur la fin de sa vie. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais c'est étonnant, comment a-t-il fait pour parvenir, lui qui n'avait pas, pour ainsi dire, pas de voix au début. Alors ça m'a estomaqué en tant qu'interprète. Comment est-il arrivé à cette puissance vocale? Comment est-il arrivé à exprimer l'entièreté de sa nature par la voix? Comme avec grâce aux chansons qu'il écrivait, mais comment est-il arrivé techniquement à la chose? Et alors ça, je me suis dit, cet homme est fait d'une pâte, il est fait en acier, parce que pour arriver à sortir de rien une telle force, une telle voix, une telle puissance vocale, comment a-t-il fait?
C'est le professeur du conservatoire là qui réagissait.
Non, mais là j'étais vraiment étonné parce qu'il l'a fait de lui-même et il l'a fait en autodidacte. Il l'a fait parce que la nécessité. Alors je connaissais évidemment toutes les chansons qu'il avait écrites, Verlaine, les Baudelaire, les Rimbaud, tout ça, qui sont des pures merveilles, qui sont des chansons qui m'ont presque empêché de mourir à 2-3 ans, à un moment très difficile de ma vie. Je remettais les chansons de Ferré, par exemple, sur les Verlaine Rimbaud, et je repartais. Il ne savait pas qu'il m'avait apporté tout ça. Mais il m'a sauvé 2-3 fois. Et c'est cette authenticité, c'est cette qualité humaine.
Je comprends bien ce que vous dites parce que Ferré a été important dans ma vie, à travers ça aussi, je lui ai jamais dit non plus, et je crois que vous ne lui en avez jamais parlé,
non.
Mais dans des moments d'extrême solitude et de panique, Ferré venait là, faisait bien pleurer, je pleurais toute la nuit en écoutant ses disques, au matin ça allait mieux.
Ça allait mieux, oui.
Âme, te souvient-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour, venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Thank you. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil. Et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous, plutôt y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt et dépêcher longtemps une vague besogne. Pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Moi, ce que je voulais dire par rapport à Léo, c'est que j'ai eu une période très difficile dans ma vie, comme tout le monde a eu à un moment donné une période très difficile. Et je me souviens que dans cette période difficile, où j'étais dans l'insomnie, où j'étais dans les difficultés personnelles, assez difficile à envisager d'en sortir sans y laisser la peau. Et c'est là où Ferré a été extraordinaire pour moi, parce qu'il m'est arrivé de réécouter les Rimbaud-Verlaine que Barclay avait édité là. Et j'ai peut-être écouté ce disque pendant des nuits, peut-être 100, 150 fois, dans des périodes très difficiles. Et ce disque m'apportait des certitudes par rapport et venait à ma rencontre pour me dire que j'avais raison, que pour me dire qu'un ami fraternel était là. Il n'en a jamais rien su, bien entendu, j'ai pas été lui raconter ça, mais ça a été quelque chose de tout à fait impressionnant, parce que je pouvais écouter ce disque 20 fois dans la nuit et ce disque me rassurait totalement. Et c'est là où on voit à quel point, si vous voulez, à quel point un artiste, quand il peut vous apporter ça, devient, un frère, un ami de toujours, pour toujours. Moi, je n'oublierai jamais ce que... Et ça, c'est une chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'on se soit rencontré ou non. C'est quelque chose de plus important. Et lui était capable, je n'aurais pas... Lui avait ce pouvoir sur moi, si vous voulez, de me rassurer, de me consoler par l'intermédiaire de Verlaine et de Rimbaud, ou de Baudelaire, dans certains cas. Mais cette chose a été déterminante pour moi, pour me sauver de quelque chose. Donc lui, il ne le saura jamais, et moi, je lui ensuite est extrêmement reconnaissant.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent pour étant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour. Pendant du toit, l'été surtout vaincu stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand on lavait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne. Et pour des visions, écrasant soleil d'Arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes au soir fauve ou noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues. Et pressant,
jeune musicien. Vous êtes né au siècle de l'abstraction, mon jeune ami. Il faudra vous y faire. Autrefois réservée à quelques fous de talent ou de génie, la musique est devenue une entreprise de la mathématique. Busoni, musicien italien, pianiste transcendantal, arrangeur de Bach aussi, maniait le paradoxe à ses heures de pause avec une rare prescience. Il écrit quelque part « La véritable musique est faite pour être lue et non pour être entendue. » Il lisait loin, le bougre. Mieux qu'un mage, car s'il est des musiques que l'on n'entend que du bout de l'oreille, habitué que nous sommes à l'incontinence radiophonique, il en est d'autres, et combien, il n'est que de mettre le nez dans les cimetières catalogues qui restent lettres mortes et dont les éditions phonographiques semblent être destinées à un public spécialisé pour écoute sous le manteau. L'œuvre contemporaine doit être concise, hautaine, à tirage de luxe, voire hors commerce, telle cette symphonie opus 21 de l'autrichien Anton Webern, illustre servant de l'artillerie dodécaphonique et dont la discrétion dans le verbe confine quasiment au silence. Ce n'est pas un mot, mais une référence. En effet, dans un livre difficile qu'il a consacré à cette nouvelle balistique musicale, M. René Leibovitz écrit à propos de cette symphonie et de son auteur, sa prodigieuse science de la variation le conduira à l'immobilité presque totale et la maîtrise du contrepoint, de l'harmonie, l'abondance de son inspiration mélodique le mèneront à ce point limite où tous ces éléments culmineront en leur expression la plus primitive, le simple son isolé. De sorte que l'on pourrait dire, comme un de mes amis, grand admirateur de l'art de Webern, quand on a su apprécier une mélodie de Webern, toutes les autres, fussent-elles aussi belles que l'on voudra, paraissent comme de la guimauve à côté. Et voilà. Entendez-vous le silence contemporain? Ce simple son isolé, qui n'est même pas d'un corbeau enrhumé? L'entendez-vous grincer sur votre portée malade? La guimauve vous tire-t-elle par les pieds sous votre table glacée, attentif que vous êtes à vous chercher l'époux de l'algèbre sous l'œil d'aigle d'un Boulez, d'un Stokomagnetophonsen, un quoi? Stokomagnetophonsen s'appelle en réalité Stockhausen. C'est un illustre musicien allemand contemporain qui a le mérite d'être l'un des pionniers les plus significatifs de la musique électronique. Il a introduit le magnétophone dans la nomenclature habituelle de l'orchestre, du moins de son orchestre. Nous avons pensé qu'il était intéressant de mêler les deux noms, le maître et l'instrument, par une sorte d'électronique hommage. Prenez donc votre nana et gorgez-vous d'accordéon sous les tonnelles de guimauve ou sous les arches du motet de Da Victoria et rendez vos plumes.
Michel Bouquet, vous avez un large sourire. Moi aussi, on est bien.
Ben oui.
Quand il y a une belle,
on
une
est belle avec chanson. Un poète, oui. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant chez Ferré, c'est l'énorme poète qu'il est. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il y a de grands, grands paroliers, il y a de très grands chanteurs, il y a de très grands, je veux dire, musiciens, il y a de, mais là, on est avec le poète.
Et vous savez de quoi vous parlez.
Vous
avez consacré votre vie aux mots, à la poésie.
Oui, j'ai consacré ma vie à une admiration pour la poésie, pour les mots, pour les grands auteurs. J'ai passé ma vie à essayer de les comprendre, de les aimer, de savoir ce qu'il y avait en dessous, pourquoi ils avaient écrit ci, pourquoi ils avaient écrit ça, quelle était la raison pour laquelle ils l'avaient écrit comme ça. C'est fascinant. Et quand on passe sa vie avec ces très grands auteurs ou ces très grands poètes,
à la recherche des secrets des personnages,
de ce qui a provoqué le fait qu'il ait pris la plume pour écrire ça plutôt qu'autre chose. Et chez Ferré, il y a ça, il y a cette rareté qu'il y a d'être en prise directe avec son émotion la plus importante et qui est partagée par tous ceux qui l'écoutent.
Vous savez qu'il disait que parfois l'écriture lui venait d'ailleurs, qu'il pratiquait l'écriture automatique, que sa main était tenue.
Oui, c'est ce qui m'a tellement touché d'ailleurs dans les lettres non postées, c'est de faire connaissance. Ça c'est Mathieu qui me les a, Mathieu Ferré qui me les a donnés à lire, son fils, et Marie, son épouse. Et moi personnellement, quand je les ai lus, j'ai encore compris mieux à quel point l'homme était un écrivain. L'homme était un poète, l'homme était véritablement quelqu'un d'important pour la littérature de tous les temps. Et il était associable à Villon, à Villon, à Ronsard, à d'autres, à Baudelaire, à Rimbaud. Il est complètement de la famille, quoi. Il est complètement de la famille.
Et l'homme s'est trompé quand il dit qu'avec le temps tout s'en va. Oui. Eh ben, c'est pas vrai. Le poète reste. Ses chansons sont là toujours.
Bien sûr, elles seront là toujours. Oui.
Et grâce à vous. Oui. Michel Bouquet, même des textes qui étaient appelés à ne pas être connus du public, puisque c'était des lettres qu'il avait fait, non postées, qui n'avaient jamais été publiées. Oui. Voilà que son fils et Marie viennent vous voir et que vous enregistrez ces lettres.
Oui, je les ai enregistrées avec énormément d'un bonheur bonheur profond. J'espère que je les ai pas trop mal faites. Parce que j'ai toujours peur de ça, parce que quand on touche à ce qui est authentique chez un poète, il faut faire très attention. Mais je les ai bien préparés pour essayer de rendre le secret qui accompagne cette écriture. C'est-à-dire cette chose qui est presque en marge de sa vie, cette chose qui est, il laissait tout ça de côté dans un coin, et puis il s'est dit ça ne sera jamais publié, ça ne sera jamais, et tout à coup, une fois qu'il n'était plus là, Mathieu et Marion et sa fille aussi ont ramassé tout ça et ont dit ne laissons pas ça dans le secret, ne laissons plus ça dans le secret, montrons-le.
Vous voulez bien qu'on écoute lettre à un critique?
Oui. Hein, moi j'aurais du mal, si vous voulez, j'aurais du mal à l'écouter parce que je vais me faire des tas de reproches. Oui. Mais il faut l'écouter. Ouais,
bouchez-vous les oreilles. Et puis il a écrit ses lettres, Léo Ferré, dans les années fin des années 50, début des années 60, hein, par là.
Oui.
Et, lettre à un critique, il aurait pu l'écrire hier. Hein.
Ah oui. Ça. Lettre à un critique. Je viens de vous construire en un quart de plume comme un robot. Et je pense qu'il vous sera difficile de vous reconnaître, car vous êtes devenu pour les besoins de ma lettre une idée générale, un sigle comme la RATP. Ou si vous préférez, un pantin désarticulé et minable sur lequel je daignerais m'arrêter quelques instants. Où travaillez-vous en ce moment? Au rez-de-chaussée, chez la variété, à l'entresol, avec Madame Françoise Sagan, au premier, avec Jean Anouilh, plus haut, devant le buffet, ou peut-être, à l'heure qu'il est, vous reste-t-il assez de verbes et d'autres choses pour pousser une pointe vers les rimes de l'Institut et laver la vaisselle. Dans votre société anonyme de l'incompétence, êtes-vous bien placé? Peut-être la présidence? Chapeau. Peut-être simplement sur la bonne voie. Persistez. Votre tour viendra si vous avez la manière. Peut-être enfin n'êtes-vous encore que garçon de bureau. Que voulez-vous? Il en faut. Astiquez-vous l'échine. Pas trop. Ça se verrait. Purgez-vous souvent. Il en est des gargotes comme du sexe. La propreté, voilà le secret. N'allez jamais à la banque pour y passer des écritures, c'est insoutenable. Contentez-vous de l'argent frais, et croyez-moi, quand il l'est autant que le poisson, il ne sent pas et fait du bien à la santé. Méfiez-vous de la mafia, très difficile à dénombrer au début. Ensuite, ça va tout seul. Un moyen, entre autres, ignorez absolument les patronymes qui n'ont pas l'air tout à fait français. Si on vous en parle à votre rayon, dites que vous en manquez en ce moment. Mais que c'est très bien, toujours très bien. Si vous voulez faire de la radio, renseignez-vous adroitement sur les patrons. Il en est qui écrivent. Dans le doute, abstenez-vous. N'allez pas vous mettre inutilement à dos des gens susceptibles de vous employer.
Le maître mot, et c'est le mot générosité qui revient le plus souvent.
Oui.
Parmi les gens qui l'ont approché, qui l'ont connu. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah ben complètement, oui, bien sûr. C'est un être qui était son propre bourreau et son propre, en même temps, sa propre magnificence. Enfin, il était en même temps... Je veux dire, c'était la générosité qui le portait à cette sincérité absolue. C'était sa générosité qui le portait à ça. Il n'avait pas peur de piquer sa substance là où elle se trouvait. Je veux dire, il ne cherchait pas à être original ou à être. Non, c'était. Il faisait avec la musique, avec la chanson, avec sa propre vie, un matériau, un magma qu'il pétrissait à longueur de journée, comme font tous les artistes qui sont d'une sincérité totale, quoi. Mais il y avait une dimension chez lui, tout à fait, de souffrance, une dimension de d'objectivité, de lucidité, de souffrance, il avait le trajet du poète, quoi, et le trajet du poète est toujours un combat permanent et dont lui seul est victime et dont lui seul est responsable. À mon habit, je ne vous ai mis qu'une fois dans ma vie. Enfin, jusqu'à ce jour, et j'espère que vous aurez une fois encore le privilège de me vêtir, ne serait-ce que pour sacrifier à un lieu commun tellement mondain qu'il en a perdu le sens critique. On s'habille en lieu commun et l'on en rajoute, même si l'on est un fin styliste. Je vous ai mis un soir de gloire, c'est peu, mais ce fut grandiose. Des lustres, un prince, 80 musiciens et une baguette. Il paraît que vous fîtes des ravages tels dans le cœur de ces messieurs de la province qu'un prurite vestimentaire depuis ne cesse de les tourmenter. Vous voyez bien que j'en rajoute. Las, vous êtes une queue de pie menteuse, je suppose, comme il se doit dans le langage idiomatique. Un frac désabusé, toujours désabusé le frac, bref, un smoking à l'échelle 20. On ne va guère plus haut. Vous êtes l'empereur des habits de soirée, et les empereurs qui vous enfilent, s'il en reste, ressemblent aux maîtres d'hôtel qui les servent. J'ai envie d'appeler les empereurs. Garçon, vous, on vous met une cravate blanche, on vous prête un mannequin et vous faites la vitrine d'un grand magasin. Vous êtes sublime à l'étalage. Pardon. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, puisque je ne vous ai mis qu'une fois, et que, dans l'espoir de rééditer cet avantage, je vous garde depuis lors sur un cintre acheté en 1950, appareil dont le ressort qui bande la tringle du pantalon est défaillant, ce qui fait que vous êtes souvent seul à augurer de mes épaules sur le bois courbé en tenant lieu pendant que mes bras lèchent par terre la poussière que Denise n'a pas cru devoir réprimander. La poussière chez nous est anarchiste. Elle n'en fait qu'à sa laine, qu'à ses catons, qu'à ses mèches. De toute façon, ne vous faites pas de trame exagérément. Dès que je serai en état d'habit, je prendrai pour vous un rendez-vous à la clinique du pressing, comme disent les gens qui feuillettent confusément le Larousse Book. Je sais que vous lorgnez sévèrement vos confrères dans la penderie. Je sais qu'ils sont souvent crottés et boueux sur le côté extérieur du bas des pans de pantalon. Excusez la littération. Je sais enfin que vous vous ennuyez au bout de la tringle. C'est justement pour vous éviter une promiscuité... comment dit-on, gênante, c'est ça, que je vous ai choisi ce coin tranquille et vous prenez pour un exil ce que vous eussiez dû accepter comme une faveur. Qu'à cela ne tienne. Vous allez rentrer dans le rang et vous mélanger à la foule des tissus compromis et fatigués. Il y a les chandails aux couleurs violentes. Vous ne leur adresserez pas le moindre revers. Vous n'aimez que le noir, distrait simplement par un peu de blanc de nuit. Ils s'en fichent, les chandails, ce sont des phares. Il y a mes costumes noirs. Plusieurs. Ceux-là vous feront pitié, car ils brillent déjà tellement ils ont couru les bois, les champs, les théâtres, avec aussi les longues stations pliées sous le tableau de bord de la voiture. Il y a mon costume à petits carreaux verts, déjà démodé par la largeur des pantalons, cassant trop sur le soulier, et qui en a vu lui aussi à travers ses petites vitres écossaises. Il y a des fautes de goût dont je ne parle jamais aux journalistes, qui n'oserait pas les trouver tout seul. Il y a parfois un manteau de femme. J'aime assez qu'un manteau de femme dans mon placard vienne égayer de son galbe et de ses parures en godet, ou non, la rigueur de mes vêtements d'homme. Il y a des souliers au-dessous, mais ils sont vraiment trop bas pour jamais atteindre à vos jardins suspendus de grains de poudre. Vous verrez... Ce sera d'abord tout beau, tout nouveau, et puis vous trouverez qu'on vous dérange vraiment trop souvent. Vous susciterez votre premier domicile au bout de la file, pardon, en tête, comme les empereurs. Si je ne vous mets plus jamais, cela ne dépendra pas de moi, mais des circonstances, comme on dit. Il y a toujours ces circonstances qui nous empêchent d'en finir. Nous, les hommes, et qui nous aide à continuer de vivre. Dans tous les cas, si je ne vous mets plus, vous pourrez toujours dire au fripier qui vous recueillera plus tard, j'ai appartenu à un musicien qui a dirigé un concert dans sa vie et qui n'a pas été fichu d'en diriger un second. Et voilà, on vous louera. Vous sortirez beaucoup parce que vous êtes beau. Et puis un jour, tout finira pour vous aussi. Il en est des habits comme des hommes, il s'use, il s'use, il s'use. Adieu, mon habit, ou au revoir, et merci. Il paraît que le fameux soir de nos fiançailles, J'avais un dos superbe pour un chef d'orchestre, c'était très important. Ah, il faut que je vous dise, au fond, je n'ai jamais beaucoup aimé sortir dans le soir. J'aurais bien aimé sortir dans la musique. Alors, tant pis. Je reste à la maison, en pantoufles, à vous écrire. Si je vous avais eu quand j'étais dans les ennuis, il y en a qui sont dans les affaires, d'autres qui sont dans les ennuis. Au lieu de vendre mes livres, c'est vous que j'aurais vendu parce que vous eussiez valu plus cher qu'eux. Et voilà. L'amour s'arrête toujours devant le boulanger et les sentiments à la fin d'une lettre.
C'est ce qui manque dans ce monde.
C'est ce qui manque.
L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.